Holy calamity, scream insanity, or are you ever going to be another great fan of me?
Vous écoutez une émission de radio. Ne déconnectez pas votre poste. Bienvenue sur 93.9 FM. Vous écoutez concrètement.
Ok. Je vais le préciser tout de suite. Il n'y aura pas de petite intro rigolote pour cet épisode. Pourquoi ? Bah, je veux dire... regardez dehors, les mecs ! C'est la guerre ! Le monde brûle ! Littéralement, il y a le feu partout ! Alors, je veux préciser aussi, vous n'écoutez pas un épisode spécial de Concrètement sur les grèves. C'était tentant, hein ? Ça, je vais pas le nier, c'était très tentant comme opportunité. La situation est grave tendue, les politiques en ont rien à foutre, et les flics sont tellement en roue libre que genre, là, sur cette phrase, il y avait une blague là-dessus, mais j'ai tellement peur qu'il se passe un drame et que ça rende l'épisode inadapté, j'ai décidé de la couper. Donc, c'est la merde, quoi. Mais on a besoin de rire dans ce monde. Donc, on ne va pas faire un épisode sur les grèves. Et puis, bon... On va pas aller jusqu'à dire que le retard du dernier épisode a impacté l'écriture de celui que vous écoutez à l'instant, mais bon. C'est une piste assez intéressante à évoquer. Non. L'épisode que vous écoutez aujourd'hui est un hors-série sur un mal qui ronge notre pays depuis des années. Qui ronge notre belle capitale, surtout, depuis des années. Manger un burger a longtemps été une affaire prolétarienne. C'est un plat nourrissant, peu coûteux, charmant dans sa simplicité. Et puis, un jour, quelqu'un, quelque part, a eu l'idée de remplacer les steaks par des sortes d'énormes pavés de viande, les pains par des buns artisanaux qui ne peuvent rentrer en bouche sans un effort herculéen, les ardoises ont remplacé les assiettes, et bientôt, bah, ça a été le tour des frites, piégées dans une sorte de mini bac à frire purement décoratif, ou ce vieux con à la con là avec du papier journal autour. Quelque part, dans les années 2010, un connard à barbe qui, je suis sûr, s'appelle Maxime, a eu l'idée de gentrifier le burger. Et on aurait pu en rester là, pas de problème. On abandonne le burger, mais on laisse le reste tranquille. Mais non, non. Le problème, c'est qu'il s'agit d'une épidémie. Chaque restaurant un peu hype ou chaque petit boui-boui se sont obligés de trahir son intégrité culinaire pour satisfaire le plaisir des jeunes bourgeois français qui ne s'assument pas. Pourquoi les restaurants se gentrifient ? C'est la question à laquelle nous allons tenter de répondre aujourd'hui. Et puis, vous savez quoi, tant qu'on y est, on va mettre le jingle de milieu d'émission pour faire croire que c'est un vrai épisode.
Vous écoutez toujours une émission de radio nommée Concrètement.
La question, donc, pourquoi les restaurants se gentrifient ? La réponse en une phrase, parce que ça marche. Je vais pas vous faire encore une fois le coup de vous dire que, de toute façon, c'est un peu plus compliqué que ça, parce que, bah, déjà, bien évidemment que c'est un peu plus compliqué que ce que je viens de dire, sinon il y aurait pas d'épisode, mais surtout, tous les arguments qui traitent de la gentrification peuvent se ramener à une équation simple. Truc qui marche plus gentrification égale succès pour l'entrepreneur. Oui, les ravages des écoles de commerce se sentent sur toutes les facettes de la société française. Alors, ceci étant dit, et loin de moi l'idée de défendre les étudiants de ces écoles, il faut reconnaître que pour quelqu'un qui désire ouvrir un restaurant en France, c'est compréhensible de choisir le mode facile. Vous vous êtes peut-être déjà dit que, dans notre pays, le choix par défaut pour ouvrir un commerce, bah, c'est de faire de la bouffe. Et normal, tout le monde aime la bouffe. De toute façon, tout le monde a besoin de manger de la bouffe pour survivre. Et tout le monde est convaincu de savoir cuisiner. Regardez en bas de votre rue. Quand on prend même tout ça en considération, combien de restaurants sont passés en coup de vent ? Combien se contraignent au rebranding, se contraignent à changer leur nom en un jeu de mots dégueulasse qui, sans aucune raison, commence avec un O apostrophe comme si on était encore en 2018 ? Beaucoup trop ! Et vous pouvez vous toucher si vous voulez des chiffres pour appuyer cet argument, parce que moi j'en trouve pas, va falloir me faire confiance sur ce coup. Donc, si vous êtes un restaurant en galère, l'auto-gentrification, c'est une évidence. Parce que ça marche. Enfin, je suppose. C'est la seule solution possible.
Si tout le monde le fait, c'est que quelque part, ça doit bien fonctionner. Et d'ailleurs, ça se voit quand on commence à poncer un peu la question. Depuis que j'ai commencé à écrire cet épisode, je suis pas arrêté de revenir sur mes propres notes, puisque l'algo TikTok et l'algo YouTube n'arrêtaient pas de me recommander du contenu présentant encore et encore de nouveaux restaurants gentrifiés. C'est un flux qui ne s'arrête jamais. Alors, vous imaginez, pour un restaurateur en galère, avoir juste comme ça de la publicité gratuite, spécifiquement recommandée, pour les gens qui s'intéressent à ce genre de questions, pour les forcenés qui cherchent à consommer ce genre de bouffe. Mais il y a encore 15 ans, des gens étaient capables de commettre des meurtres pour une aubaine pareille. Les restaurants se gentrifient parce que ça marche. Et entendons là que ça marche en termes d'image, ça marche en termes de pub. Et nous vivons dans un monde où tout est publicité, alors autant mettre toutes les chances de son côté. Et puis ça génère un paquet de thunes, quoi. Ah ouais, hein. Au bout d'un moment, faut dire les termes. Un restaurant, ça reste un business. Un business, ça cherche à se faire de la grosse thunasse, donc tous les choix entrepris vont dans ce sens. On a beaucoup balancé le terme de gentrification depuis le début de cet épisode, et je vous ai épargné une définition parce que, bah, j'estime que c'est pas nécessaire de revenir dessus, et puis surtout, j'ai grave la flemme. Mais il faut se permettre un petit commentaire, là. On met souvent à pied d'égal la gentrification et l'embourgeoisement. Et sur la question des restaurants, c'est encore plus facile à faire. Mais c'est pas exactement la même chose. Les deux notions se nourrissent l'une de l'autre, mais il y a une différence majeure. Quand un quartier se gentrifie, les prix explosent au point que les habitants finissent par se barrer. L'embourgeoisement admet un peu de ça, mais ça reste quand même plus une approche culturelle. Et dans cette ligne logique, les restaurants, bah... Je vais pas vous faire un dessin, quoi. Le problème du burger gentrifié, c'est pas que son goût. C'est qu'il coûte quand même plus de 15 balles, et on vous met même pas une canette avec, quoi. Alors je veux bien. Les restos gentrifiés utilisent deux meilleurs produits. La différence de coût est probablement pas énorme avec les autres restaurants, mais on va partir du principe que ça coûte beaucoup plus cher. Donc, ingrédients plus chers. Ces restaurants-là laissent entendre que leur main-d'œuvre est plus qualifiée que les autres restos, mais bon... Si les restaurateurs étaient vraiment à même des réalités de leur lieu de travail, on n'aurait pas une culture télévisuelle tout entière sur les émissions de bouffe. Donc, pour les employés, on va se dire qu'ils sont sur un salaire similaire aux autres restos. Le loyer est pareil, on parle de petits boui-boui ou de restaurants un peu hype, on parle de restaurants de quartier, et je vois pas qui dans le 8e arrondissement écoute Radio Campus Paris, donc on va se dire que restaurant de quartier, ça reste populaire. Les charges, c'est les mêmes. L'entretien, c'est le même. Alors dans l'équation, c'est quoi qui coûte plus cher? Pourquoi ça coûte plus cher? Eh ben c'est pour vous baiser! On va prendre l'exemple le plus saillant, celui qui nous a poussé à écrire cet épisode, le fameux bar à coquillettes qui a secoué les réseaux sociaux. 13€ le bol de coquillettes. De coquillettes! Et on parle pas de coquillettes de ouf avec v'là les garnitures, et plein de trucs, non! 2-3 morceaux de fromage et c'est... plié. Alors oui, je veux bien, c'est concept, c'est un pop-up store, la direction artistique du projet, elle est bien foutue, mais le petit resto de quartier, celui qui vous sert de la junk food à prix réduit quand vous êtes à moitié bourré, c'est pas le genre d'endroit où on est censé faire monter la note, entre guillemets, pour le cadre. Dans quel monde on vit si la déco des petits boui-boui commence à avoir de l'importance? C'est la merde. Le monde court tout droit à sa perte. Seule question qui reste, à qui la faute? C'est les mecs en école de commerce. Bien évidemment que c'est les mecs en école de commerce, c'est toujours leur faute de toute façon. C'est la faute de ces mecs, mais... Ils en seraient pas à gentrifier les bouffes populaires si la culture culinaire française n'était pas là pour les encourager. Permettez-moi de prendre juste quelques minutes pour m'expliquer. La carbonara française n'est pas une vraie carbonara. C'est un débat complètement éculé. Osez aborder le sujet avec un ami qui a décidé de se passionner pour la cuisine la semaine dernière et vous entendrez le même discours. Non mais la carbonara, la vraie, y a pas de crème dedans, on utilise des œufs et du pecorino et... Voilà. La carbonara française, c'est pas une vraie carbonara, mais elle est avant tout symptomatique de la manière dont nous considérons la bouffe étrangère. C'est-à-dire, on ne la considère pas. Ou plutôt... on se sent obligé de tout franciser, de tout passer par la moulinette du terroir. On va foutre de la crème, on va foutre des oignons, on va foutre une viande grasse qui, je ne sais pas pourquoi, n'est jamais assez cuite. Tous les pays font ça d'une certaine manière, me direz-vous. Effectivement, on adapte la bouffe suivant nos sensibilités culturelles et culinaires. Une pizza américaine n'est pas semblable à une pizza italienne, vous connaissez le débat. Mais à l'échelle de la France, ça prend une ampleur pas possible. C'est compulsif, on doit foutre de la crème et des oignons dans tout et n'importe quoi. Alors, considérez le point de vue d'un étudiant en commerce. Vous voulez ouvrir un business peu coûteux ? Vous ouvrez un restaurant. Vous voulez vous démarquer ? La bouffe étrangère, c'est bien, mais ça peut dérouter le client, surtout si c'est un concept qu'il connaît pas. Alors il faut un filet de sécurité. Dans ce cas-là, la solution, elle est simple. Vous prenez une bouffe populaire, soit étrangère, soit même française, et vous la gentrifiez. Culinairement parlant, ça revient pas qu'à utiliser de meilleurs ingrédients et de démontrer d'une meilleure technicité au fourneau de gentrifier un plat. La grande différence, c'est que, sans le vouloir, on assume de franciser la bouffe. Un hamburger gentrifié, ça se fait souvent avec beaucoup trop de viande, certes, mais surtout avec un fromage français pas nécessairement adapté, mais coulant, comme du fromage à raclette. De la mâche au lieu de la salade iceberg, c'est ça qu'on va vous foutre dedans. Et ainsi de suite. Et pour toutes les autres bouffes, c'est pareil. Hein. Il y a besoin de faire une sauce avec un peu de fromage. Mettez de la crème ou de la béchamel. Il faut mettre un bun ou un pain vraiment mou. Bah, on va mettre du pain français bien craquant, trop cuit, parfaitement inadapté pour le plat. Les bols de coquillettes dont on parlait tout à l'heure. Tout ce que ça fait, c'est reprendre cette grande tradition étudiante de se faire des coquillettes minutes et de mettre tout ce qu'il y a au fond du frigo dedans. Alors oui, c'est réducteur. Mais si vous ne voulez pas une vision du monde un peu réductrice, bah pourquoi vous écoutez concrètement ? Et puis, wow, ok, c'est pas sympa, putain ! Allez demander aux artisans de la gentrification culinaire si eux, ils sont pas réducteurs. Ouais, eux, ils prennent la bouffe du prolétariat et ils la conjuguent à ce que la petite bourgeoisie estime être du luxe. C'est dégueulasse et c'est réducteur. Tout ça pourquoi d'ailleurs ? Pour se donner une belle image de marque ? Pour faire de la thune ? Pour conforter les étudiants en commerce dans leur petit fantasme d'entrepreneuriat ? C'est pas juste. Dans un monde juste, s'il a existé un jour, on pouvait manger un burger pour moins de 15 balles. Dans un monde juste, on pouvait taper un grec bien chimique à 5 balles, canette inclus. Mais c'est impossible. Ce rêve a péri dans les flammes qui engouffrent notre temps. En attendant que ça aille mieux, en attendant que les mecs en école de commerce arrêtent de faire toujours de la merde, en attendant que le président décide de déposer sa démission, parce que là, putain, c'est chaud, je sais que c'est pas un épisode sur la grève, mais franchement, les gars, c'est chaud. Moi, tout ce que j'ai à vous dire, c'est merci de votre écoute, et au mois prochain, pour une nouvelle question. Ouais, c'est toujours aussi dur de faire un générique, ça a pas changé depuis les autres émissions. Donc, pour donner les noms de tout le monde un peu au hasard, Noé Leprêtre, à la réalisation, à l'écriture et à la voix, Enak Doji, à l'écriture et à la voix, et Souil Monkouri, à l'écriture et à la voix, et le reste, comme toujours, à la chance ou au catalogue de l'Assassin's Creed.